Bon, et ben deuxième jour à Eurovélodrome. Merde, ça marche ça? Ouais, ça marche. Je retrouve Richard. Richard, on s'est déjà vu. La première fois qu'on s'est vu, est-ce que c'était... Ouais, c'était à Bruxelles, en fait, la première fois où on s'est vu. Et on s'est retrouvé dans un autre festival de vélo, pas super loin d'ici, à Chambéry, qui s'appelait Vélozon. Et là, pour vous camper un peu le décor, donc on est au deuxième jour d'Eurovélodrome. Je suis même pas sûr que je vous ai trop expliqué ce que c'était. En tout cas, je vais quand même le faire, parce qu'on est quand même à la 27e minute du podcast. C'est un festival de voyage vélo qui a pour principe... Est-ce que les gens viennent à vélo si possible jusqu'ici et campent ici? Voilà, c'est un truc de hippie en fait, quoi. Et je retrouve donc Richard. Et Richard et moi, on n'est pas complètement des hippies. On a un peu une autre vision du monde. Et Richard, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fous là en fait?
Qu'est-ce que je fous là? En fait, je suis venu entre autres parce que tu étais là. Et puis, comme effectivement on n'est pas des hippies, l'idée c'est de montrer que on peut faire aussi autre chose que des voyages à vélo de hippies.
Je sais pas quel type d'accueil on va avoir là-dessus. Je pense que c'est un peu pour ça qu'ils ont placé nos films en bout de course, en se disant bon ben après ça les gens partiront quoi. Ouais, alors toi qu'on comprenne un peu, dans ton intervention, tu nous décris quelque chose d'assez surréaliste qui est le voyage au bout du jardin. Et alors tout le monde trouve ça plutôt amusant. Moi, j'y vois surtout une dimension philosophique. Je suis pas persuadé que tous les gens savent. Que c'est aussi une critique de ce qu'ils sont eux lorsqu'ils ont leur cul posé sur la chaise et qu'ils sont en train de te regarder. Il y a une vraie critique aussi de ce qu'on est en tant que voyageur et de ce qu'on véhicule parfois, malgré nous. Et toi, tu as conscience que c'est aussi une attaque assez frontale en fait envers les gens qui sont dans ce genre de festival?
Mais enfin, ça a été fait pour ça. Hein. L'origine, il y a quelques années, j'avais fait un guide de voyage avec tout le vocabulaire utile pour le voyage à vélo en, je sais plus, 60 langues, un truc comme ça, avec une compile avec 80, plus de 80 chansons de punk qui parlaient de vélo. Et j'avais un stand et je présentais ça dans certains festivals de voyage à vélo. Et en fait, j'ai peu vu de films de voyage à vélo, mais en fait, le peu que j'ai vu, je trouvais ça vraiment très caricatural et en fait je pense que le vélo c'était bien souvent juste une excuse quoi et qu'en fait les gens auraient pu faire ça en camping-car, en moto, enfin, etc. quoi. Et en fait, voilà, il y avait aussi l'idée que bien souvent, tout ce qui était montré, c'était de toute façon, pour faire un beau voyage, il faut aller à l'autre bout du monde pendant 6 mois, et puis sinon, ça ne sera pas intéressant, quoi. Et donc, l'idée, ça a été de prendre le problème en sens inverse et de faire un voyage complètement caricatural, mais donc 3 jours et 2 nuits dans mon jardin, dans le jardin de ma maison. Voilà. Et donc, de présenter un diaporama à la manière des vrais voyageurs à vélo qui vont à la recherche de l'autre, à la rencontre de l'autre, qui vont vivre plein de péripéties incroyables dans des paysages extraordinaires. Voilà, j'ai fait pareil dans mon jardin. Voilà. Et donc l'idée, c'est de tourner un petit peu dans les festivals de voyage à vélo pour montrer ça. Et puis oui, c'est vraiment. Alors il y a plein de gens qui disent après, ah mais c'est bien, c'est hyper rigolo, quoi. Mais je leur dis bien, c'est non. C'est pas que. Enfin, c'est surtout pas que rigolo, quoi. C'est vraiment un questionnement par rapport à mais qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et ce que je disais tout à l'heure, quoi, bien souvent le vélo, c'est juste une excuse, quoi. Et qu'en fait, on se comporte comme n'importe quel touriste qui va visiter, enfin ou qui va visiter, non, qui va vérifier à l'autre bout du monde que ce qu'il a vu sur Internet, ça ressemble bien à ce qu'il a sous les yeux, quoi.
Ouais, c'est un peu. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Cette idée de si finalement tu gardes la même histoire et qu'à la place du vélo tu mets une bécane, on est assez tous d'accord ici pour dire que c'est plus bien, quoi. Et donc le seul facteur qui est changeant, c'est le vélo. Donc finalement, c'est un facteur assez maigre et que tu peux retrouver des dimensions propres à tout ce qu'on croit exécrer, qu'on n'exécre pas forcément, qui est la compétition, qui est le rapport aux autres, qui est un rapport de domination aussi, parce que finalement le néocolonialisme. Du voyage, il existe aussi. Et il est aussi véhiculé par Moi, j'ai toujours un peu du mal avec l'idée de quête de l'autre, comme si. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Et je crois qu'on est assez d'accord là-dessus, sur l'idée qu'on va chercher des différences. Moi, je ne cherche pas parce que je suis assez persuadé qu'on est tous assez semblables Donc c'est plus par respect de l'autre que je ne cherche pas sa différence, parce que je crois qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette idée-là, mais c'est que l'idée de la quête de l'autre dans sa différence, c'est déjà une idée dérangeante en soi.
Oui, mais oui, pour abonder un petit peu dans cette idée, c'est que enfin l'autre, enfin pour un certain nombre de personnes, en fait, l'autre sera intéressant à partir du moment où il habite loin de chez toi. Et qu'en fait, la personne différente, enfin autre, voilà, eh ben, si elle habite dans ta rue, elle, en fait, parce qu'elle habite tout près de chez toi, elle n'est pas intéressante, quoi. Et donc il y a aussi ce côté voilà, distance, il faut forcément, enfin si tu vas forcément loin, tu vas forcément rencontrer des gens super, machin, et s'ils sont près de chez toi, ils sont forcément pas intéressants, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc c'est aussi une question de distance, quoi.
D'ailleurs, moi, ça me faisait penser. Moi, j'ai commencé à me questionner sur ces questions-là lorsque j'ai constaté que j'étais capable de faire plus de choses spontanément pour des inconnus, un peu par ego finalement, tu vois, que pour des gens qui étaient proches, pour de la famille, pour des gens qui en avaient besoin, qui étaient autour de moi, pour des amis, pour lesquels j'étais globalement pas super présent, et que j'allais l'être spontanément pour quelqu'un que je connaissais pas, et pas par sentiment d'altérité, mais parce que comme tout le monde, j'ai un ego et qui m'apportait plus à ce moment-là. Et je me suis dit, t'es pas présent pour tes potes qui sont mal, t'es pas présent pour ta famille, pour des gens qui en ont besoin. Il y a quelque chose de dérangeant là-dedans, tu vois. Donc quand des gens sont super capables d'être proches des individus dans leur voyage, d'inconnus, etc., et que lorsqu'ils rentrent chez eux, ils sont capables nouveau de pas être cool avec le chauffeur du bus ou de mal parler au caissier, c'est parce que j'en ai vu, tu vois, qui finalement retombent dans des schémas comme ça. Je me dis, mais est-ce que t'as ton respect de l'autre, est-ce que c'est pas ton ego finalement? Parce que c'est un choix de voyage, parce que tu es en train de mettre de la couleur sur ton voyage, tu vois, tu mets une couleur de sympathie. Voilà. Alors du coup, ce podcast est peut-être un peu étrange parce qu'on fait une digression dans la digression, parce qu'on est déjà en train de parler du Tour de France à Bruxelles. Et j'essaie de vous inviter à penser à autre chose dans un festival vélo. Et dans la dimension festival vélo, j'essaie de vous faire penser à autre chose qu'au festival vélo en vous disant que c'est non plus pas un absolu. Donc voilà, il y a d'absolu nulle part, évidemment. Alors, ouais, le Tour de France, toi, que chez Richard, t'es un gros, gros fan. Donc je sais que... Toi, tu étais assez désolé aujourd'hui de ne pas pouvoir être sur la première étape à Bruxelles, j'imagine.
Eh bien, oui, effectivement. Donc là, y avait un copain qui m'accompagnait, enfin qui m'accompagnait, qu'on devait retrouver, que je devais retrouver ici, et qui est arrivé. Et la première chose qu'il m'a dit, en fait, c'est, mais tu crois qu'il y a un écran pour qu'on regarde l'étape aujourd'hui, quoi. Donc voilà, quand même. Oui. Et puis là, donc, oui, pour dire quand même, j'ai pas pu la semaine dernière passer. Dans le bar où je vais traditionnellement à Grenoble, où il y a la sacro-sainte annuelle, le sacro-saint concours de pronostics du Tour de France. Et là, je suis vraiment très déçu parce que le Tour de France est parti et j'ai pas pu faire mes pronostics. Donc là, c'est voilà, je suis un peu mal quand même. Ouais.
Mais toi, tu t'y connais un peu en tout. Moi, parce que j'ai raconté déjà cette anecdote hier, mais moi, parfois, on me questionne sur le Tour de France. Je suis incapable de te sortir, ne serait-ce qu'un nom. Je sais qu'il y avait une équipe qui s'appelait ONCE. Je crois que c'était plus ou moins des drogués, quoi. Et, et je sais que tu peux gagner des maillots avec des points, quoi, des maillots à poids. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est un peu léger, quoi. Toi, tu t'y connais un peu, en fait.
Oui, moi, oui. Je suis un peu, j'y suivais un peu, mais moi, c'est plus, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas par rapport au paysage, mais c'est plus l'idée de enfin, par rapport à l'histoire du cyclisme et de vivre en fait des lieux quoi. Et donc, je sais pas, moi ça me plaît. Alors, il n'y a pas du tout d'idée de compétition ou quoi que ce soit, mais aller enfin monter des cols voilà, qui a passé, je sais pas, le Tour d'Italie et tout comme ça, enfin voilà quoi, c'est. Et donc il y a pas mal de, alors pas forcément enfin pas d'images de la télé parce que j'ai pas la télé, je regarde pas, mais plus des récits, enfin des choses comme ça quoi. Là dernièrement j'ai lu sur le Giro 49 de Dino Buzzati et en fait voilà quoi, enfin c'est un bouquin qui est censé parler du Tour d'Italie 49 et en fait ça parle de tout sauf de ça quoi. Dino Buzzati qui connaît rien à vélo, qui est envoyé par le Corriere della Sera pour faire un article tous les soirs, il suit la course, mais il parle de tout autre chose quoi. Bon, il en parle un tout petit peu, mais ben voilà quoi, c'est ce côté-là qui m'intéresse quoi en fait dans l'idée de course. Après, qui gagne tout ça, je m'en fiche un peu quoi.
Ouais, parce que je disais en déconnant que ça t'intéresse? Parce que j'en avais aucune idée en fait. Tu vois, je partais encore d'un postulat que pas forcément. Alors que c'est vrai que toi, dans la BD que je t'avais chopée, je ne sais plus où, que je t'avais acheté en Suisse, tu reparlais de. D'ailleurs, non, est-ce que c'est. Toi, tu étais intervenant sur cette BD? Je me souviens jamais. Ou tu étais co-écrivain ou comment ça s'est passé?
Une copine avait retrouvé dans le grenier de sa grand-mère un carnet de voyage de son arrière-grand-père qui avait fait un voyage à vélo dans les Alpes. Et en fait, moi, j'ai repris le carnet de voyage et j'ai refait exactement le même voyage. Et donc, c'était 1935. Et donc, il passe le Galibier, le col du Galibier. Enfin bon, des cols un peu mythiques du Tour de France aussi de cette époque, quoi. Et donc, enfin, pour trouver des images, en fait, c'est assez impressionnant, enfin le côté épique de la chose, quoi, de l'époque qui a complètement disparu aujourd'hui, quoi. Je veux dire, là c'est du cirque, c'est du grand spectacle, voilà. Mais il y avait ce côté épique qui était, voilà, que je trouve quand même assez fascinant, quoi.
Mais ça, c'est cette dimension-là du sport histoire, ça c'est un truc que j'arrive à piger. C'est vrai que dans ta BD, dans cette BD, je veux dire, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était cette comparaison de parcours mythique lorsque tu montes le Galibier, que effectivement c'est encore complètement minéral, etc., et qu'aujourd'hui c'est devenu Disneyland, et qu'il y a la mémoire finalement d'un col mythique, quoi. Moi aussi, ma dimension d'intérêt pour le sport, elle est aussi là-dedans. Moi, je suis un gros fan de NBA, ce qui est le sport Disneyland par excellence. Mais ce qui me plaît là-dedans, c'est l'histoire des confrontations d'équipes, de façon de construire des équipes sur des décennies, des joueurs mythiques qui vont marquer des générations et des façons de jouer, des choses comme ça. Et la dimension historique aussi de ville, parce que mine de rien, le sport, ça marque aussi des villes et l'histoire des villes. Tu vois, des villes comme Saint-Étienne ou tout ça, elles sont indissociables du sport, quoi. Et dans le vélo, bah, t'as aussi des cols et des choses qui prennent une dimension mythique, quoi. Et ce truc-là est assez intéressant. D'ailleurs, il y a tout un délire à Bruxelles, et je pense que lui-même est le premier à en avoir marre, sur Merckx, parce que tout tourne autour de Merckx et le départ de Bruxelles cette année. Et honnêtement, moi, je l'ai vu au cinquantenaire, il tirait la gueule, je pense qu'il en a vraiment marre, quoi. Il en a marre de venir raconter ses anecdotes du tour. Alors, il se pointe sur tous les événements avec des gens qui font plus ou moins des trucs de cirque autour de lui, à dire « Ouais, Eddy Merckx, et ouais, maintenant, Eddy Merckx, lui, il est au milieu à tirer la gueule par rapport à la présentation du Tour de France. » Alors aujourd'hui, à Bruxelles, au moment de l'enregistrement, en tout cas, vous êtes sur la première étape. Demain, au moment de la diffusion, vous serez sur le contre-la-montre en pleine ville. Et bah, pour vous camper un peu le décor, nous, ça n'a strictement rien à voir. Là, il y a deux enfants qui reviennent de la rivière avec un bâton. Il y a un quart d'heure, il y a un mec qui était en train de virer des cailloux de la rivière. Je ne sais pas s'ils sont partis pour des grands travaux ou quoi. Et là, autour de moi, il y a des séries de tentes, un hamac, un réchaud qui traîne. Les enfants sont toujours là, d'ailleurs, un peu étonnés de moi avec un micro. Et on est. La zone géographique, ça correspond à quoi? On peut parler des contreforts du Vercors ou ça n'a aucun sens géographiquement ici?
Non, pas du tout. C'est le. En fait, il y a. Non, non. Un peu plus loin, donc il y a l'Isère qui traverse. Donc il faudrait traverser l'Isère pour être sur les contreforts du Vercors. Et là, le côté où on est, ça s'appelle la Drôme des collines. Voilà. Voilà. Et donc c'est un paysage très très collineux et vraiment magnifique. C'est un endroit que je ne connaissais pas du tout. Et ouais, vraiment très sympa avec des villages complètement paumés, enfin voilà, des petits hameaux un peu partout. Et c'est vraiment très très plaisant. Bon, en vélo, ça monte et ça descend tout le temps, quoi. Mais voilà, c'est la Drôme des collines. Voilà, l'extrême nord de la Drôme.
Ouais, moi ça m'a fait penser un peu à la Toscane. Après, ce qui est cool avec la Toscane, c'est que tu peux le placer à peu près n'importe où. Tu peux à peu près toujours dire, ouais, ça ressemble à la Toscane. Et bon, à part évidemment, si tu es à Molenbeek ou Anderlecht, tu es un peu à côté. Mais sinon, à peu près n'importe où, tu peux dire, ça ressemble à la Toscane. Et ici, on n'a qu'à dire que ça ressemble à la Toscane. Voilà. Qui ressemble du coup au Pajottenland, qui ressemble du coup à la banlieue de Bruxelles. Et voilà, la boucle est bouclée. En fait, on est chez nous ici. Alors là, c'est complètement abracadabrant parce qu'il fait 38 degrés à l'ombre et on va aller voir un film sur la Sibérie. Alors autant vous dire qu'on n'est pas du tout dans les clous, quoi. À tout à l'heure. Je me suis isolé sous la tente parce qu'il fait toujours 48 degrés à l'ombre là pour l'instant. À la rencontre de gens qui sont venus à vélo jusqu'ici et donc quelqu'un qui est assis juste à côté de moi d'ailleurs. Et vous arrivez d'où? Non, vous ne voulez pas vous nous le dire peut-être.
J'arrive de Tel Hermitage aujourd'hui.
Alors moi je ne savais pas du tout où c'était. Vous à Bruxelles, comme vous connaissez rien à part Anderlecht, je peux vous dire que c'est à 30 km, c'est à 30 km d'ici. Et on a des gens qui sont arrivés d'un peu plus loin. Alors racontez-moi un peu, vous arrivez d'où?
On arrive de Lyon, donc c'est un peu plus loin, ouais, ça fait une centaine de kilomètres du festival Eurovélodrome.
Alors Lyon, attention pour les Belges, hein, c'est Lyon. Hein. J'ai déjà vu un extrait de naissance en Belgique où il y avait écrit Lyon, né à Lyon, Lyon. Donc ça veut rien dire, quoi. C'est peut-être parce que l'expérience du Congo belge ou quelque chose comme ça, je sais pas quoi. Et j'ai l'impression que vous avez eu un peu chaud, non? Vous avez pris un coup de chaud un peu?
Ouais, c'est plus la canicule depuis la semaine dernière en France, mais il fait quand même bien chaud. On devait être dans les 30-35 degrés en plein soleil. Donc ouais, ça cogne, comme on dit chez nous.
Est-ce que vous allez voir le film qui parle de la Sibérie? Il y a un film qui parle de la Sibérie qui est en train de d'être diffusé en ce moment. Quoique là, on doit être bien au milieu déjà. Je ne sais pas si ça vaut encore le coup d'y aller ou de respecter le temps de sieste obligatoire et de rester ici. Est-ce que d'ailleurs vous comptez aller voir les films jusque... Vous restez tout le week-end? Vous restez jusqu'à lundi? Vous faites quoi?
On reste tout le week-end, ouais. Je pense que je vais aller voir toutes les projections, effectivement. Ça va être intéressant. Ça peut donner des idées pour de futurs voyages. Et c'est toujours intéressant de voir comment les autres voyagent et ce qu'ils font.
Vous allez voir mon film à 19h30 qui s'appelle Voir Smara, l'histoire d'un paumé qui fait du vélo n'importe comment.
Ah ouais, rien que le pitch me paraît super. Donc, il est dans ma to-do list, effectivement, des films à voir en priorité.
Bon, c'est cool, à tout à l'heure alors. Alors, enfin, j'arrive à approcher Jérémy qui est à la tête du truc, mais je crois que c'est un peu pluricéphale. Il y a plein de gens qui sont autour de ce festival, non?
Oui, bah c'est, il y a une bonne grosse équipe de bénévoles. Je suis un peu la figure visible parce que c'est un petit peu chez nous. Mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui accordent du temps, ouais, pour faire de ce petit lieu un endroit magique pendant quelques jours.
Alors, moi, j'ai pas. Bon, alors, on est. J'en suis finalement qu'à la moitié parce que je suis encore avec vous demain et puis je repars lundi. Et je trouve qu'il y a un ton qui est quand même intéressant dans ce festival-là. Il y a quelque chose de je sais, bah, je pense que ça a été construit sous cette forme-là, mais c'est finalement assez engagé parce que on est tous ici sous la bannière de quelque chose d'alternatif que tu retrouves pas forcément ailleurs dans d'autres festivals. Ici, tu proposes aux gens de venir en vélo. Tout le monde le respecte, c'est ce que tu as dit avant, ou la plupart des gens le respectent, ou du moins, voilà. Mais il y a un vrai esprit, il y a quelque chose d'un peu frondeur, mais dans le bon sens du terme, tu vois. On est là, on a la sensation qu'on fait corse contre un truc quand on est là, j'ai l'impression.
Je sais pas, parce que c'est peut-être un petit peu ma vie quotidienne, et donc du coup, j'ai pas l'impression d'être en réaction à quelque chose, parce que ça coule assez du rythme de vie et peut-être des personnes qui nous entourent et qui nous inspirent. À la base, peut-être quelque chose qui peut, voilà, apporter la touche, c'est que c'est pas forcément un festival où on projette des films, c'est une rencontre de gens qui voyagent à vélo, qui se disent, on est en ce moment en train de voyager à vélo en France ou etc., ben pourquoi est-ce qu'on ferait pas un bivouac en commun? Découle de cette idée de rencontre de gens qui se baladent à vélo, et ben des gens qui ont des expériences à raconter parce que pour certains c'est pas le premier voyage, et donc découlent les projections. Mais la base c'est plutôt un bivouac avec une programmation et on tient à conserver cela.
Ouais, parce que du coup, alors l'idée à l'origine, je sais même, alors je sais que ça, à l'origine c'est Eurovélo-GEX, mais il y avait cette idée de rassembler des gens qui sont sur la route à ce moment-là, au début. C'était déjà ça l'idée au début?
Tout à fait, Eurovélodrome, ben, par le nom et puis par la philosophie, c'est la continuité d'Eurovélo-GEX. Après 10 ans de service, Marianne Bruno ont décidé de, voilà, de passer la main. Et ils sont très contents de venir ici en tant qu'invités et de découvrir des films et des voyageurs et tout ça. Oui, donc c'est la continuité de quelque chose et voilà.
Et du coup, moi j'étais là pendant le diaporama que tu as fait sur ton voyage, sur votre voyage africain. Et c'est curieux, je me suis surpris moi-même à me poser cette question et je me suis dit, mais tiens, mais comment est-ce qu'ils s'organisaient? Enfin, j'ai eu moi-même, en étant cycliste, en ayant fait mon trip vélo, j'ai eu la sensation de me dire, enfin, je me suis posé la question, bah tiens, comment ils s'organisaient pour dormir? Comment ils faisaient ça m'a paru largement courageux, il y a un truc qui m'échappait un peu, où j'avais presque envie de te poser des questions un peu idiotes à la fin, genre est-ce que vous avez eu des problèmes? Et je le fais plus parce que je sais très bien que ce sont nos questions de base quand on fait des films vélo, mais je me suis dit putain, ça a l'air dangereux en fait dans l'absolu quoi.
Qu'est-ce qui pourrait paraître dangereux, l'hébergement chez l'habitant, c'est ça ou...
Je vous ai vu pas mal en errance dans des zones ultra désertiques par exemple, avec une quantité de bouffe qui me paraissait pas conséquente. Et j'ai pas souvenir que tu aies parlé de plans galères ou de machin. Et je me suis dit, soit c'est des gens qui sont très organisés, soit c'est des gens qui sont un peu comme moi, qui en ont rien à foutre qu'il leur arrive des trucs compliqués, soit il y a quelque chose qui m'échappe un peu.
Je pense qu'on était plutôt très organisés, c'est-à-dire que dans les endroits qu'on savait peu habiter, eh bien connaître l'itinéraire et savoir dans combien d'étapes on pouvait avoir de la nourriture et un village. Et donc ça s'anticipe, un jour, 2 jours, 3 jours. C'est plutôt de l'organisation parce que je ne suis pas une tête brûlée. J'aime bien faire des choses atypiques, mais pas pour autant me mettre en danger. Et voilà, je pense que c'est un petit peu par peur. Quelquefois, la peur, c'est bien parce que ça nous évite de faire des bêtises. Et l'Afrique étant un continent réputé un peu délicat à traverser à vélo par moment, et ben du coup, ayant cette appréhension-là, et ben peut-être que ça ne nous a pas fait avancer avec inconscience.
Ouais, mais ouais, ne serait-ce que tu vois des campements en Afrique tropicale, donc veut dire un max de dangers potentiels d'animaux dangereux, etc. Moi, je sais que moi, j'étais un gros gros flippé de camper au Maroc. Je faisais des trucs de dingo pour éviter les scorpions et les serpents et tout. Je sais pas, je me serais pas senti de camper dans des zones, ouais, des zones d'animaux dangereux comme je vous ai vu faire, quoi. Ça m'a paru. J'étais un peu perturbé. Je me suis dit, tiens, il faut que je lui demande un peu comment est-ce qu'il bidouillait son truc. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il sait ce qui est dangereux? Est-ce que c'est un truc dont il décide de passer à travers ou tu vois? Ça m'a un peu, en tant que voyageur, ça m'a perturbé, quoi.
On a croisé un serpent et un scorpion effectivement au Maroc. Je pense pas qu'il y ait de l'inconscience, mais effectivement, c'était pas un gros paramètre pour nous, le danger animalier. Par erreur de parcours, on s'est retrouvé dans un moment dans un parc naturel avec des animaux un peu sauvages. Enfin, un peu sauvages, ça n'existe pas. Soit ils sont sauvages, soit ils ne le sont pas, mais voilà. C'était plus une erreur où au final, rien ne s'est passé. Et les animaux dits voilà, qui auraient pu être un petit peu dangereux, on les a plus croisés la journée que la nuit. Heureusement pour nous, on a vu des traces, donc des traces de lions, j'en parle. Aussi, on a vu des traces de lions sur une piste à un endroit, donc on sait qu'il y a des lions dans cette région-là. Mais les lions, déjà, ils chassent la nuit. Là où on passe, il y a des humains qui sont là la journée, des enfants qui vont à l'école au village à côté, ou des gens qui traversent, ou des gens qui passent la journée à pied pour faire leurs 20 km et aller dans un endroit. Par contre, la nuit, on sait qu'il n'y a personne. La nuit, on sait qu'il faut qu'on soit dans les villages, parce que la nuit, c'est le territoire des animaux. Mais mine de rien, on est un plus gros prédateur que les animaux. Et donc voilà, on allait aussi beaucoup au contact humain, on ne cherchait pas forcément la solitude, donc quand on traverse un désert, bon, y en a moins, mais on cherchait ce contact un peu humain, et qui dit contact humain dit une certaine densité de population, le long des fleuves, des rivières, il y a aussi moins d'animaux sauvages, que ce soit les caïmans, les hippos, on en a vu quelques-uns de loin, mais voilà.
Mais c'est aussi peut-être parce que moi, finalement, comment dire, comme moi, dans mon voyage, je suis parti sur un coup de tête, j'ai rien calculé à l'avance. Et c'est finalement après coup que je me pose des questions que j'aurais pu me poser pendant le voyage, tu vois, en me disant, bah tiens, bah, toutes ces histoires de dormir, etc. Alors que dans l'instant, moi, j'ai été très, très, très intuitif, en fait, dans ce que j'ai fait. Et c'est peut-être avec du recul où je me dis, tiens, si tu devais repartir, il faudrait que tu aies plus de connaissances sur certaines choses. Tu vois, j'ai très peu de connaissances des milieux naturels, etc. Et je me dis, bah tiens, ce film, ça, en tout cas, ça m'a donné envie de me dire, bah tiens, essaye d'être un peu plus compétent sur ces trucs-là pour rebouger. Mais après, bon, après, cela dit, pour ceux qui écoutent cet enregistrement, moi, je continue à prôner le fait que si tu sais pas quoi faire de ta vie, pose-toi sur un vélo, casse-toi. Ici, t'arriveras plein de trucs intéressants et c'est sans doute une très bonne décision. En tout cas, Jérémy, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis vraiment content d'être là et d'avoir été invité ici. Et ce que tu as pu dire de mon film, vraiment, m'a pas mal percuté dans le sens, voilà, où est la vulgarité? Est-ce qu'on n'est pas cerné par des choses qui sont relativement vulgaires? Et moi, ça m'a assez touché que tu te dises, bah, tiens, non, ce film-là n'est pas vulgaire, mais il est plutôt sincère. Et voilà, pour clôturer un peu cette histoire-là, je voulais juste te dire un franc merci, en tout cas.
Ben, merci beaucoup, on est ravis bien évidemment de t'accueillir. On pourrait s'envoyer des fleurs parce qu'effectivement j'ai aussi beaucoup de respect pour ton travail qui m'a un peu bousculé. Le film m'a un peu bousculé parce que pour des raisons de bienséance, des raisons d'avoir envie aussi que le travail qu'on a fait autour de notre voyage, donc un travail graphique ou d'écriture, etc., on a eu envie qu'il soit un peu diffusé. Et donc, sous couvert de ça, il y a des choses qu'on ne s'est pas autorisé à faire. Ça ne veut pas dire qu'on a fait des choses qu'on ne voulait pas. On n'a pas eu d'entorse vis-à-vis de notre philosophie, mais par contre, il y a des choses qu'on n'a pas faites. Et ton film qui bouscule un peu les voilà la bienséance qui bouscule voilà des petites choses ça m'a fait voilà baisser je sais pas comment est-ce que je pourrais exprimer ça peut-être donner un peu plus le courage de sortir des sentiers battus parce que voilà on a quelque part quand on a envie de faire des choses qui nous correspondent un peu et qui semblent atypiques aux yeux des gens qui nous entourent, ben on a besoin d'exemples, on a besoin de coups de pouce, on a besoin d'énergie pour ça, parce que c'est pas simple de sortir de sa fameuse zone de confort. Et voilà, quelque part, pour sortir de sa zone de confort, faut être je pense qu'il faut être bousculé d'un côté et inspiré de l'autre. C'est les deux choses qui, à mon avis, t'aident lorsque tu as besoin de franchir un peu le cap de la simplicité, du voyage à vélo ou de voilà plein de choses dans sa vie voilà. Et donc voilà ton film bouscule et je le trouve très chouette pour ça là.
Merci, c'est cool, mais c'est moi c'est pareil, en étant ici, je continue à être chamboulé par des gens qui me donnent envie de tenter d'autres choses, ou tu tombes toujours sur des pistes. On était avant discuter avec Richard, c'est un mec qui m'a donné envie d'avoir une forme de réflexion assez philosophique sur qu'est-ce que c'est que le voyage, et parce que on a beaucoup ri pendant sa présentation, alors que c'est quelque chose qui est très profond et qui nous propose. Et tout le monde le sait, de toute façon, on rit aussi, on rit parce que. Comment dire? Parfois, le rire nous permet aussi de c'est une porte d'entrée vers quelque chose de plus philosophique, quoi. J'aime beaucoup son boulot, et moi, en l'occurrence, ouais, ce mec-là m'a fait penser que ouais, il y a une voie à explorer dans ce que c'est que l'anti-voyage, dans ce que c'est que la remise en question perpétuelle aussi de ce qu'on est en train de faire, parce que tu peux croire que tu es dans le juste et puis te planter, évidemment, et puis on passe notre vie à ça. Et ça reste un, hein, ouais, moi j'aime bien me pointer dans des festivals parce que c'est très inspirant. Et ici, ouais, je suis assez persuadé que je vais repartir avec des idées neuves, donc c'est chouette. Merci beaucoup, Jérémy.
Ben voilà, à une prochaine fois.